Alors bonjour et bienvenue à Voix de service magazine, l'édition du jeudi 15 mars 2018. Monique Kirouac à l'animation. Avec moi en studio, Marie Lalande.
Bonjour.
Bonjour Marie. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour Monique.
Bonjour. Et derrière à la régie, ou devant à la régie en fait, derrière la console, Maurice. Alors, 5 jours avant le printemps.
C'est difficile actuellement.
C'est difficile, oui. N'est-ce pas? Alors, chers collaborateurs, vous allez nous lire des articles qui traitent de quel sujet, Marie?
À moi, je vais vous parler d'abord de l'importance du sentiment de compétence dans la réussite scolaire. Mm-hmm. Une recherche qui tourne autour de ce
thème-là. Juste dans la réussite scolaire?
Notamment.
OK.
C'est le sujet qui m'intéresse.
Elle s'intéresse à l'éducation.
Et voilà. C'est le point de vue.
Non, c'est parce que la compétence, tout le monde.
Oui, oui, mais donc dans ce créneau-là. Et deuxièmement...
On aura une table ronde après.
Oui, c'est ça. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler d'une plateforme pédagogique qui est dédiée à l'alimentation. C'est mars, c'est le mois de la nutrition.
Mmh. Ah, de la nutrition. Mmh. Voilà. Bon, et Yvan, de votre côté?
Moi, de mon côté, j'ai deux articles qui font un peu la suite du 8 mars de la semaine dernière, la Journée internationale du droit des femmes. Mais deux articles, vous allez voir, c'est assez semblable comme approche. C'est deux femmes qui sont des athlètes qu'on connaît, des aventurières aussi, et qui nous disent... Ben, c'est le fun d'être en gang, mais pas juste des gangs d'hommes puis des gangs de femmes.
Mais
des
ne
gangs...
nous en dis pas trop, là,
OK,
Yvan.
J'arrête. Hein?
Alors, de mon côté, un premier article sur comment se fait la croissance des arbres et de leurs branches.
Et oh oui, mais c'est pas ça, le titre.
Ça t'est dédié.
Oui, je sais.
Puisque vous vous intéressez, vous êtes diplômé en mathématiques et on parlera de la mathématique des arbres. Et un deuxième article qui révèle une première dans l'histoire de l'astronomie, soit un objet interstellaire qui est venu dans notre environnement solaire.
Oh.
Alors voilà pour ce matin.
Mm-hmm.
Alors Marie, compétence, réussite, comment ça se conjugue tout ça ensemble?
Il y a un lien. Alors c'est un texte de Pierre-Étienne Caza qui a été publié dans le magazine Actualité UQAM, c'est l'Université du Québec à Montréal, le 19 février dernier. Le sentiment de compétence joue un rôle majeur dans la réussite scolaire, révèle une étude. Pour certains enfants, tout est facile. Ils connaissent leurs forces et ils réussissent bien à l'école. D'autres savent qu'ils ont des difficultés et ils travaillent fort pour les surmonter. Il existe des cas plus complexes d'enfants qui ont un potentiel élevé, mais qui ne croient pas en eux. C'est ce que l'on nomme l'illusion d'incompétence, explique la professeure du département de psychologie, Thérèse Bouffard, qui s'intéresse depuis quelques années aux biais d'auto-évaluation chez les enfants d'âge scolaire. Donc, quand on leur demande de s'évaluer eux-mêmes.
Ça doit être un défi quand même, ça.
C'est tout à fait un défi, mais plus on pratique ça avec les enfants, plus ils sont habiles à le faire. Mm-hmm. Mais bon, il y a quand même des perceptions. Et il y a d'autres cas, donc plus surprenants, beaucoup plus surprenants, ceux qui se pensent meilleurs que ne l'indique leur test d'habileté mentale et qui, à potentiel égal, réussissent effectivement mieux que les autres en français et en mathématiques. Après avoir partagé à la télévision son étonnement d'avoir découvert que des enfants qui se surévaluent réussissent mieux à performer, Thérèse Bouffard a reçu des centaines de courriels d'adultes en colère. Ils déploraient qu'on encourage les enfants à se trouver bons, raconte la professeure. Éberluée par cette réaction, elle a voulu sonder les parents et les enseignants de son échantillon. Elle leur a demandé... Pour le devenir scolaire d'un enfant, est-ce mieux qu'il sous-évalue ses compétences ou qu'il les surévalue?
Ah ben oui.
Environ 50% des adultes, parents comme enseignants, ont affirmé qu'il valait mieux sous-évaluer ses compétences, alors que la littérature scientifique indique exactement le contraire. Rapporte-t-elle.
Puis là, tu vas nous expliquer pourquoi.
Voilà. Alors, pour en être absolument certaine, elle a analysé de nouveau son échantillon en mettant côte à côte les mesures d'habileté mentale, le sentiment de compétence et les résultats scolaires des enfants en français et en mathématiques.
Mm-hmm.
Au primaire, ce sont les habiletés mentales qui prédisent un peu mieux le rendement scolaire que le sentiment de compétence, révèle-t-elle. Vers la fin du primaire, les deux indicateurs sont au coude à coude. À partir de la première année du secondaire, la mesure de perception de compétence prédit 3 fois mieux le rendement scolaire que celle des habiletés mentales, et c'est ainsi pour tout le secondaire.
Probablement parce qu'on prend conscience de qui on est, qui on devient.
On s'assure. Hein? Oui, on parle de l'assurance, effectivement. Oui.
Ou on en perd.
Ou on en perd. À partir du moment où les enfants doivent travailler un peu plus fort dans leurs travaux et leçons, le sentiment de compétence est donc primordial. Il arrive dans la vie de chaque enfant un moment où il vit un échec scolaire. Les enfants qui ont une mauvaise perception de leurs compétences se décourageront, alors que les autres se retrousseront les manches, illustre la chercheuse. C'est une recherche menée par Deborah Phillips, aujourd'hui professeure à l'Université Georgetown à Washington, qui a ouvert la voie aux travaux de Thérèse Bouffard. Elle a démontré, Madame Phillips, ce qu'était l'illusion d'incompétence et nous avons voulu vérifier si on observait le même phénomène au Québec, raconte la professeure. Menée au début des années 2000 sur la rive sud de Montréal, auprès d'un échantillon de près de 1000 élèves du primaire, c'est assez considérable, une première étude a permis de confirmer les résultats de la chercheuse américaine. La chercheuse de l'UQAM et son équipe distinguent 3 groupes d'élèves. Le premier comprend les enfants qui se conforment au modèle attendu et dont la perception de compétences concorde avec leur potentiel intellectuel. Ce sont ceux qu'on appelle les réalistes. Les pessimistes sont ceux qui vivent une illusion d'incompétence et qui sous-performent, comme l'avait noté Deborah Phillips. On constate même souvent une dégradation de leur sentiment de compétence au fil des ans, ce qui a des répercussions catastrophiques sur leur cheminement scolaire, précise Mme Bouffard. La professeure et son équipe ont été étonnés de découvrir l'existence du troisième groupe, les enfants en illusion de compétence, qui se surévaluent et réussissent mieux que les autres. Afin de mieux comprendre comment se construit ce sentiment de compétence, Thérèse Bouffard s'est penchée sur l'influence parentale.
Bien sûr.
Une deuxième étude longitudinale a été réalisée auprès de plus de 700 élèves de la rive nord de Montréal, lesquels ont été suivis pendant 9 ans, de la 4e année du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et je retrouve la suite de mon texte. Voilà, les résultats indiquent que les enfants dont les parents ont un sentiment d'efficacité personnelle élevé ont plus de chances de se retrouver sur la trajectoire des élèves optimistes par rapport à leur capacité d'apprentissage. L'inverse est vrai. Les enfants de parents dont le sentiment d'efficacité parentale est faible ont une probabilité plus élevée d'appartenir au groupe des pessimistes.
Donc, il vaut mieux être optimiste.
Ben voilà, c'est ça l'idée.
Ou réaliste,
et se surévaluer un peu, et surévaluer nos enfants. Je termine. Thérèse Bouffard et ses étudiantes se penchent actuellement sur le rôle de la pression parentale dans le sentiment de compétence des enfants. Les parents qui valorisent beaucoup la performance et qui ont des attentes élevées à l'égard de leurs enfants n'ont pas nécessairement un impact négatif sur celui-ci, avance-t-elle. Ce serait même plutôt associé positivement au sentiment de compétence de l'enfant qui décoderait ça comme un signe d'encouragement. Là où ça pose problème, explique la professeure, et c'est une nuance intéressante, c'est lorsque l'enfant estime que le soutien émotionnel de ses parents, leur amour pour lui, dépend de sa capacité à atteindre les objectifs de performance.
Mmh. Oh, oui.
Tant qu'il sait qu'il est aimé, quoi qu'il advienne, la pression ne semble pas être un problème. En conclusion, bien sûr, il n'y a pas que les parents qui influencent le sentiment de compétence de leurs enfants. Le caractère de chaque enfant joue un rôle, ainsi que toutes les autres interactions significatives dans sa vie, notamment, faut-il le dire, avec les enseignants, conclut la professeure. Alors voilà, c'est un texte que je trouvais intéressant.
Tout à fait.
De Pierre-Étienne Caza, publié dans le magazine Actualité UQAM.
Merci Marie.
Plaisir.
Alors, sur ce rythme latin,
En cette journée neigeuse.
En cette journée neigeuse, exactement. Alors, sous la plume de Loïc Chauveau pour la revue Science et Avenir de janvier 2018, l'article s'intitule « L'intelligence mathématique des arbres ». Et cet article est dédié à notre collègue Yvan.
Oh, c'est écrit.
Oui, c'est écrit. C'est écrit. Quelle que soit leur espèce, les arbres suivent des lois mathématiques. La première d'entre elles est connue. Grande ou petite, massive ou maigrelette, leur forme obéit aux structures fractales. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce terme si vous ne le connaissez pas déjà. Mm-hmm. Modélisé en 1974 par le mathématicien Benoît Mandelbrot, il s'agit d'invariance d'échelle, ce qui signifie, quelle que soit l'échelle d'observation, la même forme est reproduite. L'exemple du chou-fleur est fort éloquent. Un minuscule fragment de celui-ci est un chou-fleur entier en miniature.
Oui.
À la suite des travaux de Mandelbrot, les observateurs ont massivement repéré des fractales dans la nature. Les nuages, traits de côte, tracés des fleuves présentent tous une structure fractale. Cependant, le premier qui a eu l'intuition de cette invariance d'échelle est Léonard de Vinci, au XVIe siècle. La loi qu'il a établie s'énonce ainsi. La somme des sections de toutes les branches est égale à la section du tronc. Je vois qu'Yvan est en train de réfléchir.
Pourriez-vous répéter cette phrase?
Vraiment, vous voulez que je la répète?
La somme
des sections de toutes les branches est égale à la section du tronc.
Ah oui, okay.
D'accord.
Oui.
Tout est dans tout, c'est
tout
ça que ça veut dire.
Tout est dans tout, c'est ça. Exactement, et c'est le concept fractal. 500 ans après Léonard de Vinci et plus de deux décennies après Benoît Mandelbrot, on vient enfin d'en comprendre la raison. Le groupe de recherche interdisciplinaire, et là je vais vous citer différentes institutions, de la Centrale Marseille, de l'INRA, d'AgroParisTech, du CNRS et de l'Université Aix-Marseille, a mis au point un modèle numérique appelé MECA-TREE. Tree, T-R-E-E, comme arbre. Mm-hmm. C'est français. Alors, résultats viennent d'être publiés dans Nature Communications. Et contre toute attente, il montre que ce sont la lumière et surtout le vent qui dictent ces lois mathématiques. Ainsi, ni l'essence, ni l'âge, ni la génétique de la plante ne sont des facteurs déterminants. Sous l'ensemble des climats, ces fractales forestières sont présentes, à l'exception de quelques espèces à la biologie très particulière qui semble y échapper, comme le baobab. Restait à en expliquer les causes. Alors, pendant des décennies, il y a une hypothèse qui a prévalu, c'est que la forme et le comportement des arbres proviendraient des mécanismes hydrauliques permettant à la sève d'irriguer les tissus végétaux. L'eau pompée par l'intermédiaire des racines monte en effet jusqu'au feuillage où elle hydrate les cellules avant d'être transpirée. Les nervures des feuilles agissent à la manière d'un réseau capillaire. Ensemble, ils forment un mécanisme censé assurer à la fois la climatisation des feuilles et leur capacité à produire des sucres par photosynthèse et qui influerait donc sur la façon dont le spécimen croît. Donc, plus j'ai d'eau, c'est ce qu'on imagine. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Mais cette explication hydraulique n'était pas entièrement satisfaisante pour nos chercheurs. Le système de vaisseau est en effet présent uniquement sous l'écorce, dans les premiers millimètres de bois. Pardon. Il ne représente que quelques pourcents du volume total de l'arbre et il est donc difficile d'imaginer que l'on puisse jouer un rôle sur l'ensemble de sa morphologie. C'est en travaillant sur le vent que l'UMR PIAF est parvenu à une autre conclusion. En comparant un végétal soumis à l'effet du vent à un autre de la même espèce mis à l'abri, ils ont donc constaté que le premier se rigidifie davantage et produit des branches et des troncs plus épais. Un phénomène nommé stigmomorphogénèse, dont l'impact est particulièrement spectaculaire, comme ma prononciation, sur la forme des troncs, puisqu'il conduit à un élargissement de la base pour mieux résister aux effets, aux efforts portant sur la ramure, un peu comme l'arc de triomphe, hein, qui est fort à sa base. Et... Les chercheurs ont modélisé, simulé et créé des îles virtuelles plates à l'ensoleillement constant, et soumises à des tempêtes qu'ils ont ensemencées, bien sûr toujours virtuellement, de graines de diverses espèces. Ce sont ainsi des dizaines de situations différentes de compétition et d'évolution génétique qui ont pu être testées sur 200 000 ans, ce qui représente environ 500 générations d'arbres. C'est fascinant ce que peut nous apporter maintenant toutes ces simulations, modélisations par le numérique. Ils ont alors constaté que dans ces forêts virtuelles, la compétition pour l'accès à la lumière et la résistance aux conditions climatiques conduit à l'élimination de toutes les espèces au profit d'une seule. Ils ont aussi eu la confirmation que la lumière et le vent sont bien des facteurs essentiels pour expliquer la forme des arbres. Ainsi, vent et lumière régneraient en maître absolu sur la forêt? Non, les chercheurs se gardent bien de cet absolutisme. L'hypothèse de la circulation hydraulique de la sève étant toujours défendue, bien sûr, je vais dire par les purs et durs, mais bon. Mais une chose est sûre, l'influence du soleil et du vent l'emporte largement. Ces travaux devraient en tout cas déboucher sur des applications pratiques en gestion forestière, ce qui fait notre bonheur. La santé des arbres est principalement vue aujourd'hui sous le prisme de la disponibilité en eau et de l'ensoleillement. Il faudra désormais y ajouter l'influence majeure du vent sur la croissance du tronc et de la qualité du bois. Alors, c'était un article de Loïc Chauveau pour la revue Science et Avenir de janvier 2018. Et j'espère que mon...
Je suis impressionné.
Que le mathématicien en toi est heureux.
Oui. Alors voilà.
J'aurai 100 ans. Toi, moi. Je m'allongerai au chaud. Dans le creux de tes cernes. Comme un retour au berceau, comme pour mon dernier repos, je colmaterai l'hiver de mon rire le plus doux. Je compte terrible aux commissures des paupières. Je relirai tes rides autant de souvenirs qui ne sont qu'à nous, même si tu l'as. Un homme sans égaux. J'ai honte, c'est la guerre. Le cachemire entre nous. Au comble, c'est horrible. Mais les blessures meurent.
Béris, accompagné de Louis-Jean Cormier, nous chantait « J'aurai 100 ans ».
Merci Maurice. Alors Yvan, vous allez nous présenter un groupe où, si je comprends bien, le genre n'a pas vraiment d'importance.
Oui, c'est exactement. Tu l'as. Ah, parfait. Et ça s'appelle « L'aventure unisexe ». Je n'ai jamais pensé que j'étais l'égal d'un homme. Ça nous est présenté par Mylène Paquette, qui a fait son aventure à la rame.
La Mylène Paquette.
Oui. Dans le magazine Espace, que vous pouvez trouver à plusieurs endroits, c'est un magazine qui est gratuit, mars 2018. À l'aube de ma première aventure, il y a 9 ans, je me souviens avoir eu peur de ne pas être à la hauteur du défi qui m'attendait. Quelques heures avant de partir pour traverser l'océan Atlantique à la rame avec un équipage de gars, je doutais de moi-même. Le défi était de taille, ramé de toutes nos forces pour relier le Maroc et la Barbade. Les 5 hommes qui m'accompagnaient étaient des athlètes, des sportifs, des aventuriers aguerris, prêts à affronter les 12 heures d'efforts quotidiens nécessaires pour ramer vers l'Amérique. Bien que j'ai pu m'inquiéter... Bien que j'ai pu m'inquiéter du fait d'être la seule femme à bord, c'était plutôt l'ampleur de l'effort à fournir qui m'accablait mentalement. Je rejetais l'idée qui soutenait que mon genre me prédispose à être plus faible que le sexe opposé. Mm-hmm. Ce sont plutôt mes aptitudes physiques et ma robustesse psychologique, propres à ma personne et non à mon genre, que j'ai remises en question. Je me comparais à mes camarades par rapport à leur expérience plutôt que par rapport à leur genre. Je ne me suis jamais dit que les hommes qui m'accompagnaient allaient être plus forts juste parce que ce sont des hommes. Cela m'aurait semblé ridicule de les réduire à leur sexe. Mm-hmm. Je les valorisais parce qu'ils me semblaient plus aguerris et entraînés par leur expérience préalable. Est-ce que ma contribution serait aussi importante que celle de mes compagnons de voyage? À ma grande surprise, après quelques jours en mer, j'ai constaté que j'étais à la hauteur du projet. Qui plus est, pour la première fois de ma vie, je ne m'étais jamais autant senti comme un être humain à part entière. Face à la nature qui m'entourait, je m'estimais moins défini par mon genre que par mon espèce. Mm-hmm. Quelle découverte! À la merci des conditions hostiles que l'océan impose, l'être humain n'a d'autre choix que de reconnaître ses besoins afin de pouvoir survivre. Manger, dormir, s'abriter, prendre soin de soi, se maintenir en santé, se soigner, éliminer. Avant d'être une femme, j'étais un humain avec des besoins, un point, c'est tout. Mm-hmm. Faire face à la nature avec un grand N m'a permis de reconnaître mon essence réelle. Dans mon embarcation rouge au milieu de l'Atlantique, nous étions 6 aventuriers, ramant à l'unisson bien avant d'être des hommes ou des femmes. Pour réussir une telle aventure, on doit savoir composer avec les changements, tirer profit des circonstances et prendre les bonnes décisions. Bien avant que la présence d'une femme à bord d'une embarcation puisse influencer l'issue de l'aventure, bon nombre de facteurs entreront en jeu. Nos capacités d'adaptation, notre résilience et notre détermination ont beaucoup plus à voir avec l'issue de l'aventure que notre genre. Que nous soyons un homme ou une femme, l'environnement qui nous entoure, qui nous entoure n'en a que faire.
Tout à fait.
Pour quelles raisons se lance-t-on en vélo à l'assaut d'une montagne, en combinaison ailée, ça j'ai jamais fait ça, d'une falaise vertigineuse ou en canot à glace sur les eaux gelées du fleuve? Pour vivre des sensations fortes, me direz-vous? Pour ma part, il s'agit simplement d'assouvir le désir de me sentir en contact avec la nature et d'ainsi me reconnecter avec mon essence première dans un monde où la femme est sans cesse rappelée à son genre parce que ses limites n'ont pas été respectées. À une époque où le sexisme est encore bien présent dans toutes les sphères de la société et où l'équité salariale se fait encore attendre, ça fait du bien de se sentir d'abord comme un humain. Parce que le salaire de l'aventure est le même pour un homme que pour une femme. Fréquenter la nature nous permet de mettre en valeur nos qualités humaines avant tout, et quand on est femme, ça fait du bien. Et c'est peut-être pour cela que l'aventure m'interpelle encore, parce qu'elle me rappelle qui je suis avant d'évoquer le genre auquel j'appartiens. Alors, c'était un billet de Mylène Paquette dans le magazine Espace. Ça s'appelle « L'aventure unisexe ». Je n'ai jamais pensé que j'étais l'égale d'un homme.
C'est intéressant, on pourrait faire le lien avec la compétence.
Oui, le sentiment de compétence.
Voilà, oui, oui, alors peu importe le genre. Oui. C'est
ce... Puis d'ailleurs, dans ce que tu racontais, tu n'as jamais mentionné « gars-fille ».
Non. Exactement.
Non,
donc,
ben parce qu'on n'en faisait pas, on n'en faisait pas mention. Voilà. Il y a peut-être des données là-dessus dans l'étude, là, mais bon. Oui.
Mm-hmm. Et les genres parmi les arbres n'existent pas.
Vraiment?
Alors, Marie, une petite brève.
Une petite brève. Alors, j'ai trouvé ça sur le site Planète F. C'est un texte de Nadia Lévesque qui a découvert un livre de Benoît Amaranger sur le TDAH qui est publié aux éditions Midi 30. Ça s'appelle « 10 questions sur le TDAH chez l'enfant et l'adolescent ». Alors, quelques extraits de ça, en tout cas un premier. Le sucre n'entraîne en fait aucun changement de comportement chez les enfants. Bien sûr, ils peuvent être un peu plus excités parce qu'ils sont heureux d'avoir mangé quelque chose qu'ils aiment, mais aucun mécanisme neurologique, métabolique ou biologique n'associe la consommation de sucre à une augmentation de l'agitation chez l'enfant. Et vlan.
Oh, yoy, yoy.
Donc, on peut manger du sucre quand on est petit.
Ben, on va garder ça. Pas trop fort.
Pas trop fort, non, parce qu'on est contre les, surtout les mauvais sucres, n'est-ce
oui.
pas?
Oui.
Alors, il nous reste très peu de temps avant la pause. Donc, je vous dirai, chers auditeurs, revenez-nous après cette pause. Donc, Voix de service magazine se poursuit après la chanson et la pause. Et on vous parlera de solidarité, peu importe le genre, d'astéroïdes et d'alimentation.
Oui.
Oui.
Alors, à tout à l'heure.
D'entendre à l'Est d'Éden par Dumas.
Merci. Alors, je poursuis. Sous la plume de Franck Danino, pour toujours la revue Science et Avenir, j'ai presque terminé, ne vous découragez pas.
C'est un bon numéro. De quel mois?
Janvier 2018.
OK, il y en a un qui est sorti depuis?
Non, et ça sort aux deux mois, je crois. Mm.
Ah, okay.
Alors, l'article s'intitule « Le mystérieux cigare spatial venu d'un autre système solaire ». On marche sur la tête. C'est vraiment fascinant, à l'instar de Patrick Michel, spécialiste des astéroïdes à l'Observatoire de la Côte d'Azur, la communauté des astronomes oscille entre l'émerveillement et la stupéfaction depuis la découverte d'Oumuamua, messager en langue hawaïenne, venu des tréfonds de l'espace. Alors, ce petit astéroïde de 400 mètres de long a été repéré le 19 octobre dernier par l'observatoire du Haleakala à Hawaï, aux États-Unis, alors qu'il se situait à 30 millions de kilomètres de la Terre. C'est toujours fascinant de voir où est-ce que ça se situe.
Ça, c'est 400 mètres oui, à 30 millions, millions
oui, okay. de kilomètres de la Terre. Il provenait de la constellation de la Lyre, n'est-ce pas beau?
Oui.
Avait été dévié de sa trajectoire initiale par l'attraction gravitationnelle du Soleil et s'éloignait de notre planète comme un bolide à la vitesse de 140 000 km/h.
Oula!
Mais aujourd'hui, les calculs d'orbite réalisés par les plus grands télescopes internationaux ne laissent aucun doute sur son origine. Contrairement aux 750 000 astéroïdes et comètes répertoriés jusqu'à présent par les astronautes, Oumuamua ne vient pas de notre système solaire, et il le quittera bientôt pour ne jamais revenir. Ce visiteur de l'espace est ainsi le premier objet interstellaire jamais observé. Les scientifiques s'attendaient certes depuis des dizaines d'années à détecter un objet de ce type, mais celui-là défie toutes leurs prédictions et présente des caractéristiques que personne n'arrive à expliquer encore pour le moment. La première surprise est qu'il s'agit d'un astéroïde, un corps rocheux, totalement inactif, et non d'une comète. Nous attendions à ce que les objets interstellaires soient plutôt des comètes, parce qu'elles possèdent une orbite elliptique très allongée et gravitent à des distances 10 à 20 fois plus éloignées de leurs étoiles que les astéroïdes. Leur étoile, j'ai fait une liaison dangereuse.
Mal à propos.
Et ceci est précisé par M. Patrick Michel. Elles sont donc, en théorie, beaucoup plus facilement éjectables de leur système stellaire. Or, aucune chevelure ni traînée lumineuse caractéristique d'une comète n'ont été observées dans le sillage d'Oumuamua. Il s'agit donc bel et bien d'un astéroïde. Ce petit caillou bouscule ainsi les certitudes des astronomes et va entraîner une révision obligatoire des modèles actuels. Ce messager vient nous dire quelque chose sur le voisinage de notre système solaire, quelque chose de potentiellement très important, mais on ne voit pas encore de quoi il s'agit. De la part d'un scientifique, c'est un petit peu étonnant. Et plus étonnant encore, la forme de l'objet. L'analyse de sa période de rotation, alors il tourne sur lui-même en 7h20, et de sa luminosité, indique en effet que sa longueur serait de 6 à 10 fois plus importante que sa largeur. Celle-ci n'atteindrait ainsi que 40 à 70 mètres, incertitude qui devrait bientôt être réduite grâce au télescope spatial Hubble. Dans tous les cas, on peut dire que Oumuamua ressemble, selon les imaginations, à un sous-marin, à une baguette, à une sorte de cigare spatial.
Voilà le titre. Oui.
Exactement. Du jamais vu de mémoire d'astronome. Patrick Michel cherche à expliquer cette structure tout en largeur par des modélisations. Je ne vois pour le moment que les effets de marée, c'est-à-dire des forces gravitationnelles qui auraient étiré et modifié la forme de l'astéroïde au voisinage d'une planète. En attendant, le mystère reste entier, ce qui ne manque pas d'enflammer l'imagination des fans de science-fiction et d'extraterrestres, cette forme oblongue rappelant celle du vaisseau décrit dans les années 1970 par le Britannique Arthur C. Clarke dans son célèbre roman « Rendez-vous avec Rama ». La couleur rouge sombre de cet astéroïde, composé manifestement de roches et surtout de métal, s'explique en revanche assez facilement. Elle résulte d'une exposition particulièrement longue aux rayons cosmiques. Oumuamua vagabondait en effet depuis des centaines de millions d'années dans l'espace avant qu'il ne s'approche fortuitement de notre système solaire.
OK. Combien de temps? Ça fait, depuis tantôt que tu me lis, puis je dis combien de temps que ça a pris pour se rendre jusque-là? C'est plusieurs millions...
d'années dans l'espace. Centaines de millions d'années.
Aïe, aïe, aïe.
Oui. Il dépassera Jupiter, parce qu'on sait qu'il va sortir de notre système solaire. Donc, il dépassera Jupiter en mai 2018, c'est très bientôt, Saturne en janvier 2019, puis poursuivra sa route vers la constellation de Pégase. On ne saura sans doute jamais d'où arrivait cet astéroïde. Mais maintenant que les astronomes savent comment régler leur télescope et repérer les objets interstellaires, ils se préparent déjà à en étudier de nouveau dans les mois à venir. Pour l'heure, depuis le 13 décembre, dans le cadre du programme Breakthrough Listen, qui vise à détecter des signes de communication extraterrestre, un radiotélescope aux États-Unis écoute l'objet dans une bande de fréquence qui serait comprise entre 1 et 12 GHz. Alors voilà, c'était cette première de l'astronomie et c'était donc un article de Franck Danino pour la revue Science Avenir de janvier 2018.
Le monde est plein de mystères.
Alors, Yvan, vous poursuivez, je pense, dans le même esprit que tout à l'heure.
Oui. Et là, le titre, je dois faire très attention.
Oui, parce que c'est pas les trois mousquetaires, là.
Non.
OK.
Une pour tous, toutes pour un.
Oui.
De Geneviève Lefebvre, que vraiment, il va falloir que j'aille son autographe un jour. Encore dans le magazine Espace, comme tantôt, de mars 2018. J'ai toujours fait du sport avec les gars. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai pédalé, nagé et grimpé la montagne en arrière de chez nous avec des mecs. Avec des filles aussi, évidemment. On ne faisait pas le décompte des sexes. On se mélangeait dans un beau bordel un peu chaotique, tout le monde en short délavé et en espadrille à semelles trop lisses, parfaites pour se péter la gueule sur des roches qui roulent. On s'en foutait. On était dehors. On était bien. On partait ensemble, on s'écorchait la peau aux mêmes branches d'arbres et on partageait les mêmes sandwichs beurre de peanut confiture effoirés dans nos poches en se faisant croire qu'on était perdu dans le bois alors qu'on connaissait chaque sentier par cœur. Les filles, les gars, complètement différents dans nos corps, semblables dans le spring qu'on avait dans les jambes. Le besoin de faire sortir le méchant, de dépenser le surplus d'énergie de l'enfance, faisait le reste. Et au sommet du pain de sucre du Mont-Saint-Hilaire, on se fondait dans un amalgame de petits cœurs battants, de toupets en bataille et de doigts collés de résine. L'adolescence a compliqué certaines affaires. Tout à coup terrassé par nos hormones, mais aussi par la force de l'éducation et de la pression à nous conformer dans nos rôles respectifs, on s'est divisé pour aller dans notre rang. Les gars d'un bord, les filles de l'autre. Tout le monde a perdu au change. Les gars s'en donnaient à cœur joie dans l'adrénaline et les endorphines, mais ils subissaient la rude pression d'avoir à performer sur la glace, le terrain de basket, les sentiers de cross-country. Malheur à ceux qui n'étaient pas bons en sport. Les filles se sont retrouvées benchées dans des rôles de belles au bois dormant, pognées à attendre d'être choisies par un prince boutonneux pour aller au bal.
Ou faire le cheerleaders, non?
Oui, à une autre époque, plus récente. À ce jour, la raison première qui fait abandonner le sport aux adolescentes, c'est de ne pas être belle, c'est-à-dire le visage rouge, en sueur, les cheveux plaqués et le maquillage qui ne tient pas quand elle s'active. Et puis, ce qui n'était pas dit, mais qui se répandait en nappes phréatiques qui infiltraient tout, c'était qu'une fille sportive, une vraie, pas celle qui veut perdre des calories pour parader en bikini, c'était encore pire que des cheveux gras. C'était une fille libre.
Oi, oi.
Qui n'attendait pas après un gars avant de partir dans le bois, même pas peur du grand méchant loup pour aller voir sa mère grand. Qui n'attendait pas d'être choisi pour qu'un petit doute vienne la chercher en carrosse. Qui s'en allait affronter les sentiers toute seule, son trop lourd pack-sac sur le dos, quitte à en garrocher la moitié dans le ravin. Là, Marie, ça devrait te dire quelque chose, rendu là. Cheryl Strayed. Non, parce qu'on a vu le même film. Ah. Cheryl Strayed, les filles de l'aventure te saluent. En écrivant Wild, le film en question.
Ah oui, Wild, oui.
Le récit de ton périple sur le Pacific Crest Trail, tu as ouvert la voie à tant de filles qui n'attendaient que ta petite poussée dans le dos pour oser. Ces filles-là n'attirent pas les hommes peu sûrs d'eux. Elles sont singulières, audacieuses, indépendantes. Ça départage les hommes des enfants. Adultes, j'ai retrouvé le sport et les joies de l'entraînement avec des gars. Est-ce que je suis bien tombé? Ah oui! Les gars avec qui je nage, je pédale ou je cours sont formidables. Pas une once de sexisme. Je retrouve dans les groupes d'entraînement mixtes une solidarité, une émulation et des encouragements que je ne retrouve nulle part ailleurs.
C'est vrai.
Cette mixité fait de nous de meilleurs athlètes, mais aussi de meilleures personnes, d'un côté comme de l'autre. Bien sûr, comme toutes les filles, j'ai eu droit à des comportements sexistes, à des attitudes déplacées et à mon lot de commentaires paternalistes et autres conseils non sollicités sur la meilleure façon de lacer mes chaussures, aussi gossant qu'un essaim de mouche noire en mal de sang frais.
Oups.
Comme toutes les filles, j'ai aussi toujours en tête la possibilité d'une mauvaise rencontre, une gang de gars en chaleur, par exemple, sur un sentier. Ça ne m'empêche pas de partir, mais ça reste une préoccupation. Cela dit, je refuse de me priver des bénéfices si nombreux, pour nous les filles comme pour eux les gars, de bouger en groupe mixte. Quand j'ai vu les clubs de filles en plein air apparaître, j'ai tout de suite pensé à Bobby Gibb, première femme à courir le marathon de Boston en participante illégitime, coureuse fantôme qui avait terminé en 3h21 sans que ce soit enregistré nulle part, parce que la croyance populaire voulait que les femmes soient incapables de cette endurance. J'ai aussi pensé à Catherine Switzer, puis ça c'est dans les années 70, ça fait pas si longtemps, qui s'est inscrite au marathon sous ses seules initiales pour éviter qu'on refuse l'entrée à une femme, qui, au 6e kilomètre, s'est vue interceptée par les officiels de la course qui lui ont arraché son dossard avant que Catherine leur lance un cri de révolte « Get the hell out of my race! Ôtez-vous de ma course! » Catherine Switzer a terminé son marathon, mais la Fédération américaine d'athlétisme l'a disqualifiée et suspendue, invoquant le règlement qui interdisait aux femmes de participer à toute compétition avec des coureurs masculins sous prétexte de perdre leur droit de concourir. J'ai pensé à cet article publié dans l'actualité sur les recherches de Jennifer Birdall, une prof de psychologie des organisations qui a découvert que plus une nation se souciait d'équité homme-femme, plus elle avait de chances de remporter des médailles sportives, et ce, autant du côté masculin que féminin. J'ai enfin pensé à tous ces gars merveilleux avec qui je partage des couloirs de piscine, des sentiers de trail, des routes en vélo. Si j'ai toujours un immense plaisir à partir avec ma gang de filles, je ne m'imagine pas me passer de ma gang de gars et encore moins de l'exclure de ma vie sportive. Quand on grimpe un sentier escarpé, on ne le monte pas en filles, on ne le monte pas en gars, on le monte ensemble. Et c'était l'article de Geneviève Lefebvre, « Une pour tous, toutes pour un » dans le magazine Espace de mars 2018.
Merci Yvon. Alors, on associe pédagogie à alimentation.
Tout à fait. Mars étant le mois de la nutrition, je l'ai mentionné tout à l'heure, je vous propose un texte sur le thème de l'alimentation et de l'éducation. Et le titre, c'est « Une plateforme pédagogique dédiée à l'alimentation ». C'est un texte d'Anne-Isabelle Lévesque, publié sur le site RIRE, R-I-R-E, c'est le réseau d'information pour la réussite éducative, le 6 mars. Quel rôle jouent nos cinq sens dans la perception des aliments que nous mangeons? Pourquoi faut-il transformer ces derniers avant de les consommer? L'un des nombreux cours en ligne offerts par la plateforme pédagogique Alimentarium Academy répond à ces questions. Qu'est-ce que c'est l'Alimentarium? Situé en Suisse et fondé par Nestlé, je m'excuse, c'est pas de ma faute, l'Alimentarium est un musée consacré à l'alimentation. On y présente des expositions interactives et historiques, des animations ludiques et des activités gourmandes. Ayant comme mission d'atteindre un public plus vaste et d'avoir un rayonnement international, l'Alimentarium offre maintenant une plateforme d'éducation et d'apprentissage en ligne. Des experts, des chercheurs, des professeurs et des diététiciens, siennes, se sont rassemblés afin de créer des contenus pertinents et de qualité. Le slogan sur la plateforme pédagogique, enseigner, apprendre, partager, s'amuser, découvrir la première plateforme pédagogique en ligne en matière d'alimentation et de nutrition. Et je vous invite à écouter cette courte vidéo promotionnelle dont le lien cliquable est dans le texte que je vous lis.
Pour eux, pour elle, pour lui, Alimentarium Academy met le savoir de l'alimentation et de la nutrition à portée de tous. Pour vous, c'est une plateforme pédagogique online créée avec des experts reconnus, très utile lorsque vous préparez vos cours ou pour enrichir votre programme. C'est aussi un outil innovant pour suivre la progression de vos élèves et vivant pour capter leur attention. Pour vous, c'est un formidable partenaire qui vous permet d'accompagner votre enfant dans son apprentissage et de stimuler sa curiosité. Mais pas seulement. Pourquoi ne pas en profiter pour approfondir vos propres connaissances? Et puis tiens, vous pouvez aussi relever de nombreux défis. Bien joué! Pour toi, Alimentarium Academy, c'est une autre façon d'apprendre, avec plein de jeux et des centaines de quiz. Une façon sympa de faire des devoirs, non? Alors prépare-toi à devenir incollable sur la digestion, la nutrition, les fruits, les légumes, et peut-être même que tu apprendras à aimer les brocolis. Alimentarium Academy, c'est bon d'apprendre, de partager, de s'amuser. Alimentarium Academy, academy.alimentarium.org.
Alors, on vient de vous donner l'adresse. Mm-hmm. Donc, on peut aller voir directement. C'est entièrement gratuit. Alimentarium Academy constitue la première plateforme pédagogique en ligne dédiée à l'alimentation, à la nutrition et à la digestion. Les enseignants, les enfants de 8 à 16 ans et les adultes représentent les trois clientèles pour qui on a créé des cours adaptés à leurs besoins. 5 thèmes essentiels y sont abordés, l'alimentation et les 5 sens, les aliments et les nutriments, la transformation des aliments, le système digestif et finalement l'écologie et l'économie de l'alimentation. Grâce à cette plateforme pédagogique, les enseignants peuvent enrichir leur programme, dynamiser leurs cours. Ils peuvent en effet avoir accès à des formations en ligne. En anglais, on dit ce sont des Massive Open Online Courses, des MOOCs, qui comprennent des vidéos, des activités, des fiches pédagogiques. Ils peuvent également y suivre la progression de leurs élèves avec des tests et des jeux questionnaires. Les enfants ont accès aux mêmes thématiques que les enseignants, mais sous une forme plus ludique. Par exemple, des jeux questionnaires, des défis. Ils peuvent défier tant leurs amis que leurs parents à ces jeux. D'ailleurs, Alimentarium Jeux Questionnaires est une application gratuite et ludique pour toute la famille. Quant aux adultes, les parents, ils peuvent approfondir leurs connaissances et mieux comprendre toutes les problématiques liées à l'alimentation et à la nutrition grâce aux vidéos, aux fiches, aux jeux questionnaires thématiques. On peut par exemple profiter de conseils pédagogiques d'experts pour stimuler et accompagner les enfants. La plateforme est disponible en français, en anglais et en allemand. Alors voilà pour ce texte d'Anne-Isabelle Lévesque. Moi, je pense que c'est intéressant.
C'est faut formidable. Passer à côté. Ça s'adresse à tout le monde.
Et c'est gratuit.
Alors, voilà. C'est vraiment génial.
Oui.
Merci, Marie. Alors, une brève, cher Yvan.
Oui, bien, c'était le décès cette semaine de Stephen Hawking. Mm. Puis on reste dans le domaine un peu spatial, tout ça. Je suis allé chercher, il y a 3 citations que j'ai retenues de M. Hawking. La première, qui rentre à peu près en lien avec les textes que tu as lus, Monique. « Si les extraterrestres nous rendent visite un jour, je pense que le résultat sera semblable à ce qui s'est produit quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique. Un résultat pas vraiment positif pour les Indiens. »
Non.
Deuxième citation. Le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance.
Ah oui, mon Dieu, oui.
Et la troisième, les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. Ouh. Et puis, lui, il l'a vraiment vécu.
Ah mon Dieu, oui, de façon magistrale.
Ben... Ouais.
Oui.
Et Marie, donc, oui, moi, je continue donc sur quelques extraits du livre... de Benoît Amaringer, le 10 questions sur le TDAH chez l'enfant et l'adolescent. Aucune donnée ne montre de lien entre la maladie cœliaque et le TDAH, contrairement à une croyance. Ou encore, 76% des traits d'inattention, d'hyperactivité et de désinhibition seraient attribuables à la génétique. C'est énorme, c'est 3/4.
Ben oui, tout à fait.
Ouais. Alors, c'est un livre vraiment intéressant, particulièrement pour les parents d'enfants diagnostiqués TDAH. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup. Mmh. Alors, de mon côté, une petite capsule linguistique de M. Guy Bertrand. Alors, par choc à par choc.
Ah oui?
Circulation dense ou garantie? L'expression par choc à par choc est bien française, mais elle signifie d'un par choc à l'autre dans un même véhicule.
Ah bon?
On peut parler d'une garantie par choc à par choc pour désigner une garantie qui couvre une voiture d'un par choc à l'autre. En revanche, par choc contre par choc est l'expression consacrée pour dire que la circulation est extrêmement dense et que les par chocs des voitures se touchent littéralement.
Donc,
d'accord.
C'est contre plutôt que à.
C'est contre plutôt que à.
Nous le saurons.
D'accord.
Une dix.
Alors, moi, ben, peut-être quelques mots d'enfant.
Oui.
Alors, air pur. Selon Enguerrand 8 ans et demi, il est constitué uniquement de gaz naturel. La bière. Puisqu'on parlait d'alimentation.
Un autre nom, oui.
Ketchup, selon Aaron, 6 ans. Sauce tomate pour, dit ma maman, ruiner le plat qu'elle a mis des heures à cuisiner. Et les Pays-Bas, selon Daniel, 8 ans, je ne comprends pas pourquoi ils s'appellent comme ça, puisqu'ils sont en haut sur la carte de l'Europe.
Bon. Alors, oui,
il va... Une toute petite de M. Hawking encore. « Regardez vers les étoiles et pas vers vos pieds. Essayez de donner un sens à ce que vous voyez. Demandez-vous ce qui fait que l'univers existe. Soyez curieux. »
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à nos collaborateurs, Marie, Yvan.
Merci, bien sûr,
Maurice, pour la mise en onde et le choix musical. Alors, on vous souhaite tous bonne semaine et au plaisir de vous retrouver à notre antenne jeudi prochain.
Jeudi prochain.
Au printemps.
Oui.